De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Mais enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben je vous écoute, parlez, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
Je suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique.
C'est délicieux, nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Entre blockbuster, film, pourquoi pas romantique, et puis chef-d'œuvre, oui, c'est Cinérama qui débute. Alors, bonjour Manu, bonjour Marine.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Deux films pour vous, chacun.
Tout à fait. Alors moi, je vais vous parler de L'autre continent, c'est un film franco-taïwanais, et je vais vous parler de la nouvelle production Blumhouse, Ma.
Et toi Manu?
Ah, moi, ce ne sera pas des chefs-d'œuvre, hein, puisque je vous parlerai de Godzilla 2, Roi des monstres, et puis un film français, Venise n'est pas en Italie, d'Ivan Kalberak.
Et c'est moi qui ai le chef-d'œuvre, Parasite de Bong Joon-ho, qui était donc eh bien, la palme d'or de la 72e édition du Festival de Cannes. On écoutera le réalisateur coréen, qui était donc présent forcément à Cannes. Et puis, on fera aussi un petit jeu avec la filmographie de... Alors, c'est pas Gilles. C'est
Claude Lelouch.
Claude Lelouch. Et donc, on aura 5 extraits de sa filmographie, qui est très large. 5 extraits à découvrir. Ce sera le blind test de cette émission qui débute maintenant.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie, hein.
Si on arrête ce Ghidorah, on les arrête tous.
Y a-t-il une autre créature qui aurait une chance contre lui?
Oh non, Godzilla.
On y est.
Et oui, et à l'origine, Godzilla, c'est plutôt un sauveur qu'un méchant, en fait. Alors, suite directe du précédent, hein, réalisé par Gareth Edwards, Godzilla 2, Roi des monstres, poursuit l'esthétique assez sombre du précédent, mais se trouve face à un paradoxe gênant. Le projet, confié à Michael Dougherty, auteur de Krampus, ne sait pas très bien quelle direction prendre. Hein. Le choix discutable de Gareth Edwards d'adopter, on va dire, une mise en scène épurée, souvent filmée en contre-jour, de nuit, sous des volutes de fumée, avec pas mal de pluie, s'avérait cohérente dans la mesure où Godzilla se présentait comme une sorte de présence-absence peu identifiée à l'écran. Alors là, le spectacle était frustrant, mais s'accompagnait d'une vraie vision de cinéaste par cette volonté de suggérer, de jouer sur l'attente et le hors-champ. Alors dans ce nouveau film, la déception est plus grande. Les intentions sont inverses. Il s'agit de nous proposer un spectacle explicite et gigantesque, avec combat épique entre les différents monstre de la mythologie japonaise, sauf que visuellement, le film se réapproprie la même grammaire cinématographique que le premier opus. Alors, dès les premières minutes, le constat est flagrant, l'apparition de Mothra, un insecte géant, hein, qui ravira les nostalgiques des films japonais, est complètement foireuse. Cet insecte démesuré, déployant un imaginaire fascinant, est affreusement mal filmé, ne permettant pas d'apprécier les pourtant remarquables effets spéciaux. Le spectacle généreux et titanesque souffre de sa réalisation bordélique, alors monté en dépit du bon sens et souvent sous-éclairé, ne laissant que rarement le loisir de contempler la beauté de ces monstres issus de la culture, d'une culture qui nous échappe un peu quand même.
C'est le retour des titans.
Combien il y en a en tout?
Ils sont 17 jusqu'ici. On est mal barrés.
Notre planète va périr à moins que nous libérions Godzilla.
C'est le monde de Godzilla. Nous ne faisons qu'y vivre.
C'est évident.
Alors la bande-annonce, elle indique un peu l'une des grosses faiblesses du film. Hein. C'est le scénario, hein, s'avère un des gros points noirs du film, laissant une impression de bâclage. Hein. Cette fois-ci, l'agence cryptozoologique qui s'appelle Monarch, elle doit faire face à une vague de monstres titanesques, 17 donc... relâché par le docteur Emmett Russell, hein, qui voit en la destruction progressive de l'humanité une manière de rétablir l'équilibre naturel. Il faut sauver la planète de la folie guerrière des hommes. Mais ces plans ne se déroulent pas tout à fait comme prévu. Le redoutable roi Ghidorah, c'est un monstre à trois têtes, accélère le processus de façon spectaculaire. Mais heureusement, Godzilla est là pour veiller à l'équilibre des forces, aidé bien sûr de Mothra. Alors les auteurs tentent de retrouver l'essence même des premiers films d'Ishiro Honda, en réutilisant notamment la musique originale, Mais le message écolo pesant semble tout droit sorti d'une série Z. Hein. Les personnages plus nombreux sont totalement inconsistants, au point qu'à un moment, bah, on se dit que oui, l'humanité devrait effectivement disparaître, tant les pantins à l'écran nous paraissent stupides. Les éléments mélodramatiques hein, articulés autour d'un du trio familial, le père, la mère, la fille, c'est un peu une constante, on va dire, du cinéma catastrophe au contemporain, ne servent strictement à rien, sinon à nous rappeler le trauma du fils décédé. Alors il ne nous reste plus qu'à se délecter si l'on fait impasse sur les faiblesses formelles des affrontements entre Godzilla, Mothra, Rodan et Ghidorah qui retrouvent par instant la poésie chaotique des originaux. Alors certaines séquences crépusculaires, un peu isolées du reste, sont parfois fascinantes, révélant alors les qualités et les limites du cinéma hollywoodien contemporain, incapable de raconter des histoires passionnantes, mais pourvu parfois, on va dire, d'un souffle épique, mais fragmenté, on va dire, dans un déluge d'effets visuels et sonores un peu chaotiques et pas, finalement, c'est pas très intéressant.
Et le son de voilà. Godzilla change à chaque fois, hein, c'est ça. Hein, y a à chaque fois, ils apportent un soin particulier à la sonorité de la bête, au cri.
Oui, au cri. Mais bon, on le reconnaît quand même, hein, c'est parce qu'ils reprennent quand même le cri
la base, évidemment.
De base. Oui. Et la prochaine fois, je pourrais juste signaler que Godzilla risque d'affronter, tenez-vous bien, c'est pas Winnie l'ourson, mais c'est King Kong.
Ah oui, Skull, oui. Allez, on change d'univers, on retrouve celui des studios Blumhouse qui sortent Ma pour Maman.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
C'est bizarre ça, vous bossez jamais ?
Si. Et je vais être obligée de travailler plus puisque vous n'avez pas de temps pour moi.
Yo, t'as trop besoin d'un mec.
Yo, attention comment tu me parles.
Oh, mais qui a eu cette idée nulle de mettre aux commandes un film d'horreur le réalisateur Tate Taylor, à qui l'on doit le mélo bien larmoyant la couleur des sentiments. Qui ? Alors oui, hein, il a également réalisé La fille du train, thriller classique plutôt réussi, mais ici, donc dans cette nouvelle production Blumhouse, à qui l'on doit Get Out ou Happy Birthday un peu plus récemment, il échoue en beauté à nous provoquer ne serait-ce qu'un vague frisson. À la base, une idée plutôt intéressante pourtant, un personnage de femme solitaire qui va nouer une relation plus qu'ambiguë avec des ados en les aidant à se fournir en alcool et en leur proposant de faire la fête chez elle. Alors on rappelle hein, qu'aux États-Unis, où se passe le film, la législation sur l'alcool est extrêmement sévère. Grosso modo, si vous avez moins de 21 ans et que vous êtes surpris à picoler, eh bien vous risquez de passer la nuit chez les flics, ce qui est un petit peu fâcheux. À partir de là, eh bien une relation de dépendance malsaine va se créer. Et pour Ma, dont on comprend qu'elle n'était pas exactement la reine du lycée dans le passé, c'est l'occasion de s'offrir une nouvelle jeunesse à n'importe quel prix.
Cet appareil est un traceur GPS.
D'accord.
Toute ma flotte, les camions, les fourgonnettes, sont équipés de ce traceur, y compris le véhicule de mon fils. Je peux savoir ce que mon fils fabrique constamment chez toi.
Et c'est lui qu'il faut interroger.
C'est à toi que je pose la question. Et je veux une réponse.
Je sais pas ce que tu veux que je te réponde. Est-ce que tu crois qu'on pourrait faire ça ailleurs qu'ici ?
Je ne te le dirai pas deux fois, Swan. Si jamais j'apprends qu'Andy s'est approché de toi ou de ta putain de baraque, je n'appellerai pas les flics, non, non. Je m'en chargerai personnellement.
Alors le scénario est loin d'être mauvais, hein. Il est même plutôt bien écrit, bien pensé. Le personnage notamment de Mac, qu'on entendait juste avant, joué par Octavia Spencer, est réellement riche, il est complexe. Il permet à la comédienne qu'on a toujours connue finalement dans des rôles d'héroïne positive de montrer une nouvelle facette de son jeu. À ses côtés, eh bien, il y a Juliette Lewis qui tire aussi bien son épingle du jeu. En revanche, eh bien, les personnages d'ado sur qui le film est quand même centré, un son mais d'une indigence à pleurer, extrêmement caricaturaux, voire inexistants. Et sérieusement, en 2019, les héroïnes de films d'horreur sont encore des lycéennes vierges qui s'en sortent grâce à leur sens moral. Au secours, le film est très long à démarrer. D'ailleurs, il ne démarre jamais vraiment, hein, en fait. On comprend assez vite que tout va s'amplifier lors des 15 dernières minutes. Et là, eh bien, la déception est à la hauteur de l'ennui que l'on a ressenti pendant les trois premiers quarts du film. Ajoutez à cela énormément d'incohérences dans le scénario et vous comprendrez que je sois sortie du film passablement énervée. Par exemple, à un moment, les ados sont pris au piège dans une cave, la porte est fermée. Et à côté de la porte, il y a une fenêtre. Et à côté de la fenêtre, il y a beaucoup d'objets contondants qui pourraient être utilisés pour briser cette fenêtre et leur permettre de s'échapper. Mais non, ils préfèrent paniquer en s'acharnant sur cette porte fermée, évidemment. Voilà, et ça, ce n'est qu'une incohérence parmi tant d'autres. Malgré une idée de départ réellement intéressante, donc il y a une actrice principale vraiment impressionnante, hein, quand même, on peut le dire, le film échoue totalement à créer le moindre suspense, à provoquer la moindre angoisse en se contentant de quelques jumpscares totalement factices et attendus. Et le truc le plus effrayant du film, finalement, reste la coiffure d'Octavia Spencer, qui est un espèce de mélange entre une coupe au bol et un mulet. Mmh. Voilà. Mais pour ça, il faudra aller voir la bande-annonce et non pas se contenter du son.
Merci Marine. Voilà, là on a parlé déjà de deux films qui vous ont pas vraiment intéressé. Donc là maintenant c'est la partie presque chef-d'œuvre, en tout cas film réussi et qu'on va vous recommander d'aller voir. Comédie noire et sociale teintée d'horreur, Palme d'or méritée pour Bong Joon-ho. On va parler maintenant de Parasite.
This is Cinerama.
Le Festival de Cannes.
Le Festival de Cannes.
Le Festival de Cannes.
C'est irrésistible en effet.
Palme d'or du dernier Festival de Cannes, Parasite de l'excellent réalisateur Bong Joon-ho est déjà dans les salles et on ne peut que s'en réjouir, hein, d'autant que la Corée du Sud, qui n'est pas le continent cinématographique le plus indigent, ouvre enfin son score de Palme d'or. Alors pour parler du dernier film du réalisateur coréen, il faut effectivement prendre des pincettes, hein, parce que face aux exigences du réalisateur lui-même qui a demandé aux journalistes, quelle que soit leur critique, eh bien de bien se garder de révéler ce qui va lier les personnages de son film afin de protéger les émotions des spectateurs. Alors ce qu'on vient bien sûr respecter, on va se contenter de suivre la bande-annonce. Le film débute avec la famille de Ki-taek qui est au chômage et qui a un autre problème. Il n'y a plus de Wi-Fi, plus de Wi-Fi, plus d'espoir. Alors si le problème se résout, une opportunité moins anecdotique va s'offrir au fils de la famille. Il va pouvoir donner des cours d'anglais particuliers dans une famille fortunée qui vit dans les hauteurs. Alors en quelques plans, le réalisateur coréen va permettre au spectateur eh bien, de situer ce qui, au-delà du fossé social, sépare ces deux familles. L'une vit dans un entresol au cœur de la ville, tandis que l'autre a sa maison d'architecte dans les hauteurs. Elle jouit d'un jardin et d'autres atouts qui auront leur importance dans ce récit orchestré par un Bong Joon-ho fidèle à son style. Comme on ne peut pas révéler grand-chose à la vue de la bande-annonce qui se contente de susciter l'envie, on va faire un détour vers la filmographie du coréen, car ce film n'est pas si différent des précédents. Alors déjà, comme dans tous ses films, le réalisateur dépeint une réalité sociale. On a déjà dit combien les deux familles étaient éloignées. Alors autre élément fondamental de la mise en scène du vainqueur de Cannes 2019, la comédie va jusqu'à la farce et la bouffonnerie. Et quel que soit le sujet, dans Memories of Murder, son premier film, il s'agissait quand même d'un serial killer, eh bien le réalisateur construit des personnages drôles parfois malgré eux ou convoquent des situations absurdes. Dans Parasite, la comédie s'articule avec la chronique sociale en opposant, pour grossir le trait, hein, la cupidité de certains personnages à la naïveté des autres. Un équilibre qui va vaciller pour teinter cette comédie de noir et faire basculer le film vers l'horreur, pourquoi pas, et le fantastique. Le film obéit à une rupture de style mais conserve l'essentiel, la cohérence d'un récit qui lie tous les personnages. Pour parler d'une société coréenne foncièrement inégalitaire, Bong Joon-ho ne prend donc pas un versant tire-larme, tout comme il n'adoucit pas la forme, la lumière du film dans les tons jaunes, bon ça c'est un peu le stéréotype du film asiatique, le cadre, le montage, le rythme du récit est sidérant, tout semble tomber juste. Alors au-delà d'une esthétique bluffante, la mise en scène structure un récit avec un soin apporté à l'espace. La position des personnages dans l'espace, tout comme les lieux dans lesquels ils se trouvent, ont une importance capitale. Il y a le devant et le derrière, le dessus, le dessous, autant d'espace que le réalisateur arpente et déplie avec sa caméra, et on se trouve principalement donc dans une maison, la maison des plus riches. La séquence d'ouverture du film qui amène la famille à chercher le Wi-Fi, donc à trouver la meilleure position pour être connecté, est en ce sens métaphorique. Description d'une société verrouillée, fonctionnant à deux vitesses et oubliant les siens, Parasite jouit d'une puissance cinématographique rare, stimulée par une mise en scène dynamique et des acteurs extrêmement bien dirigés. C'est du grand art et on va écouter l'artiste Bong Joon-ho qui était présent à Cannes.
Je fais des films de genre, effectivement, mais je n'aime pas suivre les codes classiques des films de genre. Et j'essaye effectivement de transcrire des messages de la société à travers ces codes qui sont cassés. C'est sûr que, en fait, depuis les années 2000, on a eu beaucoup d'évolutions dans les cinémas de genre en Corée. Et en fait, je pense que ce qui est vraiment important, c'est qu'on n'a pas suivi le code des films de genre, par exemple, américains. On a pu effectivement mettre notre patte coréenne, notre touche coréenne, pour raconter les histoires, que ce soit un sujet pour évoquer un sujet social ou politique. De nos jours, franchement, je trouve que c'est un petit peu bizarre dans le cinéma coréen s'il n'y a pas de message politique ou de messages sociaux. Là, en fait, on a une certaine convention par rapport au cinéma étranger, notamment américain. Là, on est vraiment resté propre à notre cinéma coréen. « quand je fais effectivement mon, je travaille sur mon scénario ou storyboard, je ne réfléchis pas forcément comme ça, en me disant oui, je vais à partir de ce moment-là, je vais faire de la comédie ou je vais faire du drame. En fait, je suis complètement inconscient. Et quand même quand je suis sur le tournage, je suis plutôt en fait mon instinct et je ne suis pas en train de calculer vraiment au millimètre pour voir effectivement est-ce que le gin tonic va être fait avec 40% de gin et 60% de tonic. En fait, je me focalise vraiment par rapport en fait à la situation de l'instant T que je vis. Et je pense que les spectateurs ont plus tendance à être habitués à voir des films de genre. Et je pense que moi, en tant que réalisateur, franchement, je suis totalement inconscient. Et c'est une fois que quand je regarde la finalisation du film, je me dis, ah, c'est vrai que cette scène, peut-être je suis en train de faire une mise en scène par rapport au film d'horreur, mais en fait, c'est pas quelque chose de commun chez moi.
C'était Bong Joon-ho, donc le réalisateur coréen qui nous racontait comment il s'amusait avec le genre pour cette Palme d'Or. Sommes-nous dans une comédie tendrement loufoque, comme je l'ai lu, une comédie complètement ratée ? Venise n'est pas en Italie, tu nous en parles, Manu.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu. Alors c'était sûrement une comédie.
Tres, Margherita et un piquelou.
Certo.
Ah bon ?
Certo, ça veut dire bien sûr.
Je sais très bien ce que ça veut dire. Ah oui, vous avez l'accent romain, j'avais reconnu.
Gracias.
Extrait d'ailleurs qui se passe en France hein, et pas en Italie là, à ce moment-là. Alors Venise n'est pas en Italie, titre amusant, hein, mais qui ne cache pas vraiment un bon film. Alors non, l'on s'attendait à quoi que ce soit, mais la présence de Benoît Poelvoorde pouvait agir néanmoins comme une plus-value, un récit lénifiant, alors lorgnant du côté de Little Miss Sunshine. Le film, bon, à mon sens, un peu surestimé du duo Valérie Faris et Jonathan Dayton, mais qui avait au moins la qualité d'être très efficace. Alors en adaptant son propre roman à l'écran, hein, Yvan Calberac nous sert une énième comédie sociale poussive, étrangement déconnectée du réel. La famille Chamodeau alors semble venir de nulle part, conciliant des modes de vie assez antinomiques. Alors d'un côté ancrée dans une beaufrie sympathique et rassurante d'un prolétariat encore présent, et puis de l'autre tentant de rattraper le train en marche en refusant la société de consommation, attachée à des valeurs écologiques et nomades, vagues réminiscences d'un esprit bohème. Alors d'entrée, le portrait de cette famille échappe à la moindre cohérence. Pourquoi pas, après tout, encore faudrait-il un ton libertaire, une folie communicative nous embarquant dans une odyssée insolite, ce qui n'est pas vraiment le cas. Le père, Bernard, fait vivre son petit monde dans une caravane en attendant des autorisations pour construire une maison. Il pratique le yoga tout en arborant fièrement son Marcel. Sa femme, elle vend des produits bio, mais fait teindre son fils, Émile, en blond. On ne sait pas trop pourquoi. Ce dernier, d'ailleurs assez honteux de ses parents relous, tombe amoureux au lycée d'une fille, Pauline, qui est la fille d'un chef d'orchestre bourgeois. Elle-même pratique la harpe, instrument associé donc à un mode de vie aisé. Elle invite pour les vacances Émile à Venise pour la représentation d'un concert. Fou de joie, il en parle à ses parents qui décident alors de faire le voyage avec lui en caravane. Débute alors une sorte de road trip foutraque et initiatique avec en fond un leitmotiv musical particulièrement insupportable.
Honte de nous ? On te convient pas comme parents ?
Oui, j'ai honte. Et j'ai honte qu'on soit pas une famille normale !
Mais ça n'existe pas, les gens normaux ! Émile, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer ! J'ai inventé une nage. Tu sais comment je l'ai baptisée ? L'huître.
L'huître. Mais ça nage pas, une huître.
Et le papillon ? Le papillon, ça nage ?
Ouais, c'est ça, je vais m'en coucher.
Bon, comme ça, ça peut paraître amusant, hein. Poelvoorde est un bon acteur, mais vaguement quand même. Hein. Le voyage en question, alors ponctué de quelques incidents cocasses et de l'abattage convaincant des comédiens, donc Poelvoorde, mais aussi de l'excellente Valérie Bonneton, alors souvent enfermée quand même dans des rôles de greluche. Hein. Alors l'ensemble s'avère bien trop timoré pour convaincre. La critique des nantis se vaut dans une vision caricaturale contre-productive. Alors le papa de Pauline est un sale con méprisant et prétentieux, alors que sa femme n'est qu'une alcoolique dépressive. Tandis que les vraies valeurs sont ailleurs, chez les bras cassés, les chamoulots, ces braves gens de la France d'en bas qui savent se serrer les coudes en dépit de leur manque de culture et de leur mauvais goût permanent. Mais comme ils sont pleins d'amour et de générosité, tout leur est pardonné. Alors feel good movie au parfum un peu rance, Venise n'est pas en Italie, rate surtout sa traversée de la France profonde et son arrivée, très carte postale en Italie, en l'occurrence Venise, filmée comme une publicité pour les pâtes Barilla. Il sacrifie aussi son sujet, les premiers émois d'un adolescent timoré qui découvre le désir, à l'hôtel dit-elle, de la gaudriole franchouillarde et déprimante. L'absence de mise en scène alors finit par enterrer cette comédie rarement drôle et mièvre qui se termine par une petite pirouette suggérant que rien n'est impossible en amour. C'est très révolutionnaire. En revanche, pour Yvan Calberac, il paraît de plus en plus impossible qu'il réalise un bon film. Après, elle est déjà très médiocre, une semaine sur deux, et on va s'aimer.
Mais tu iras quand même voir le prochain. Et
voilà. Non, c'est fini. Moi, j'arrête là. J'arrête les comédies françaises.
Allez, on passe à la séquence ludique de cette émission. C'est le blind test autour de la filmographie de Claude Lelouch.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Claude Lelouch, c'est près de 70 films tournés en mettant bout à bout les longs métrages, téléfilms et séries. C'est 60 ans de carrière. Voilà, nous, on a 5 extraits à vous faire écouter. Il faut les trouver, ou au moins tenter de les trouver. Premier extrait.
Dis-moi bonjour.
Bonjour.
Non, là, t'as l'air de me dire au revoir. Dis-moi vraiment bonjour.
Bonjour.
Non, dis-moi bonjour comme si j'étais un malade.
Bonjour.
Fais-le, ça.
Bonjour.
Je sens que tu préfères des choses pour moi. Mon cas t'intéresse plus que le tien. C'est ça qui intéresse les gens. C'est que leur parle d'eux, pas de toi. D'ailleurs, dis-moi bonjour.
Bonjour. Non, je l'ai loupé, celui-là. Ouais. Je m'en suis rendu compte après. Ouais. Bonjour.
Voilà, tu vois.
Bonjour Manu, tu l'as trouvé ?
Oui, c'est Itinéraire d'un enfant gâté. Oui. D'ailleurs sorti en 88, la même année que L'Ours. Je me souviens de ça. En fait.
Et là, c'était le duo Belmondo-Anconina. Deuxième extrait.
C'est beau quand même d'envoyer un télégramme comme ça, il faut avoir du culot. Hein. C'est vrai, non ? C'est extraordinaire qu'une femme belle vous envoie un télégramme comme ça, c'est merveilleux. Moi, jamais j'aurais fait un truc comme ça. C'est formidable, de la part d'une femme, c'est formidable. Quel courage. Bon, si je tiens cette moyenne, j'arrive à Paris vers 6h, 6h30. 6h, 6h30, elle va être couchée, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais dans un bistrot, je l'appelle d'un bistrot. Je vais chez elle. Une femme qui vous écrit sur un télégramme, je vous aime, pour aller chez elle.
Voilà, c'était Trintignant, évidemment.
Bah, un homme et une femme. Oui. Hein. Seul Palme d'Or, d'ailleurs, hein, qu'il a eu. Hein.
Oui, en 66, Trintignant et Anouk Aimée, qui sont dans ce film, eh bien, se retrouvent actuellement au cinéma dans Les plus belles années d'une vie. Troisième extrait.
Les pleines lunes, il faut ne pas sortir, il faut boire de l'eau, ne pas prendre d'excitant, essayer de rester calme et, si on peut, éviter de la regarder. De la regarder pour ne pas être aspiré, pour pas... Cette nuit, il peut se passer des choses terribles, atroces. Les femmes vont pleurer, les bébés vont pleurer, vont s'agiter. Les malades dans les cliniques, ceux qu'on n'opère jamais les nuits de pleine lune. Jamais. Les bistouris du chirurgien, l'éclat de la pleine lune. Hop, ça scintille. C'est des choses dans les métalloïdes. Il se passe un bistouri affûté. Le laser, peut-être, et encore pas. Aucun chirurgien se servira d'un laser les nuits de pleine lune. On ne le dit pas dans les journaux pour ne pas effrayer.
Alors attention, ce n'est pas un documentaire, hein. Ne rien prendre à la lettre.
Il y a des jours et des lunes,
oui.
Et ce n'est pas un film non plus sur les loups-garous. Hein.
Non, film de 90 avec la voix de Paul Prébois, mais il y avait dans ce film Gérard Lanvin, Patrick Chenet et Annie Girardot. Quatrième extrait.
Il a quel âge l'enfant ?
Le même âge que 5 ans, je crois.
Ah, et donc ils vont traverser la période difficile, quoi.
Et nous, on en est sortis peut-être de cette zone dangereuse.
Il doit se faire sucer, ce mec-là. Il a une tête à se faire sucer, non ?
Moi, je le trouve pas sexy.
Il doit pratiquer la pénétration avec, de manière homéopathique. C'est-à-dire, il doit la travailler très périphériquement. Enfin, je sais pas, je suis pas sûr. Mais j'ai pas l'impression que c'est un mec qui branche Bourdin. Enfin, je sais pas. Il est sexuellement extrêmement curieux, ce mec-là, non ?
Alors, pour ceux qui ont vu le film, la fellation est effectivement importante. C'est pour ça que j'ai pris cet extrait. Manu, c'est trouvé.
C'est tout ça pour ça. 92. Ouais. 93
avec,
même.
Évidemment, Fabrice Lucchini et Francis Huster. César du meilleur acteur dans un second rôle, d'ailleurs, pour Lucchini. Allez, le dernier extrait. Pour moi, c'est... Parce que j'aime pas tellement, en fait, Claude Lelouch. Mais pour moi, c'est un des films que je préfère.
Vous avez vu Prima della Rivoluzione?
Non.
Bertolucci porta un... des pugni in tasca di Bellocchio?
Non plus, non.
Vous avez sûrement vu Un homme et une femme. Elle parle que de ça, elle est sans moment.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule.
Vous lisez les critiques, monsieur?
Non.
Alors, comment faites-vous pour choisir un film? comme je choisis une femme, en prenant des risques.
Oui, c'est Lino Ventura. Lino
Ventura.
Oui, c'est un film de 73.
C'est peut-être la bonne année, alors.
Oui, oui, Lino Ventura qui doit faire un casse et qui doit se grimer hein, pour ça. Et évidemment, il rencontre Françoise Fabian et il en est amoureuse, mais il n'est pas dans son milieu. Hein. C'est ce qu'on entend ici. Et lui, il a pas la culture pour lui. Voilà, ainsi s'achève ce blind test sur la filmographie de Claude Lelouch. On retrouve maintenant un film que tu as beaucoup aimé, Marine, L'autre continent.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Qu'est-ce que tu fais ?
La méthode des lieux, tu connais pas ? Le royaume de la mémoire, tout ça ?
Non, c'est quoi ?
Ferme tes yeux.
Oui, on passe donc à L'autre continent de Romain Cogitor. Maria, jeune trentenaire en quête d'elle-même, part à Taïwan afin de devenir guide touristique et d'écrire son premier livre. Elle y rencontre Olivier, guide lui aussi, et est fasciné par les langues. Il en parle une quinzaine qui très vite l'intrigue et l'attire. Elle qui collectionne les amants et ne croit à peu près qu'en la devise Carpe Diem, tombe amoureuse de cet homme aux antipodes de son tempérament passionné. L'autre continent, c'est l'Asie, c'est Taïwan donc, où ils se rencontrent, mais c'est bien sûr, surtout, l'amour qu'ils découvrent ensemble et qui leur semble infini jusqu'au moment où la maladie surgit et s'impose dans leur quotidien.
Ni si wo chen shui de shu xin, ni si na ling yi ge zhou, zai wo shen ming.
Alors c'est un film extrêmement réjouissant, hein, même s'il est également très déprimant. C'est le second long-métrage de Romain Cogitor. Et alors ce n'est pas tant la naissance de l'amour qui intéresse le réalisateur ici, mais davantage les deux individualités qui vont s'affirmer face à la maladie. Lorsqu'Olivier découvre qu'il est gravement malade, un choix s'impose à Maria. Doit-elle suivre son rêve seule et repartir à Taïwan pour finir son roman ? Doit-elle rester aux côtés de la personne qu'elle aime et l'aider à combattre le cancer ? Finement écrit, dépourvu de morale toute faite, le film m'impressionne vraiment par son absence de clichés, par son aptitude à raconter une relation qui s'effrite avec tout ce que cela implique de complexité. Côté réalisation, le film jongle entre l'esthétique du drame classique mais soigné et les fulgurances stylistiques du film expérimental, mélange audacieux mais très réussi. À intervalles réguliers, on va avoir comme ça un espèce de montage de plans qui, pris séparément, n'auraient pas de sens, mais qui, considérés dans leur ensemble, nous font ressentir ce que ressentent les personnages. On a donc des passages entiers filmés de façon très sensorielle, très impressionniste, avec des plans allant de l'infiniment petit, comme des globules blancs au microscope, à l'infiniment grand, et qui nous font entrer finalement dans l'espace mental des personnages. Le film reste presque entièrement centré sur le couple, les autres personnages étant vraiment accessoires. Et la distribution est à la hauteur de ces personnages. On retrouve Déborah François, qu'on avait découverte chez les Frères Dardenne et qui est absolument mais excellente ici. Et Paul Amy, alors qui surjoue un peu son côté lunaire, mais qui est quand même très bien. On pense à Se souvenir des belles choses de Zabou Breitman ou encore à Comme une étoile dans la nuit de René Ferré, deux films très réussis sur des couples face à la maladie, un sujet toujours un peu délicat qu'il s'agit de traiter sans pathos mais avec de l'émotion, ce que Romain Cogitor justement parvient très bien à faire. On a assez hâte de voir ce qu'il va faire dans ses prochains films, d'autant plus qu'il n'a que 34 ans. Et alors je vais quand même vous lire son descriptif Wikipédia pour vous dire à quel point ce réalisateur est prometteur. À 34 ans, il est scénariste, réalisateur de cinéma. Il est également cadreur, monteur, acteur, metteur en scène de théâtre, photographe. Ses travaux ont été publiés avec ses poésies sous forme de recueil. Et il est également compositeur de musique pour le théâtre. Voilà, tu peux être rhabillé Xavier Dolan, je pense.
Et il paraît qu'il fait très bien la cuisine et qu'il est aussi jardinier à 16 heures.
Également.
Voilà. Ce film...
Voilà, vraiment à voir. Hein. Oui. Je le conseille vivement.
Et il est en salle depuis le 5 juin. C'est un film à voir. Moi, je vais vous parler d'un film à ne pas voir. C'est un film à sketch à ne pas faire.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Mais tâchez de faire vite.
Amori tortilla. La nuit promet des merveilles.
C'est pas un cliché. Les pauvres sont gros parce qu'ils bouffent de la merde. Voilà.
Elle est où ma soupe, connard ?
Vous voulez taper à SDF pour pouvoir rentrer chez vous ?
Ben oui, où est le problème ?
Coupé, c'est génial !
Salaud pauvre !
La nuit promet des...
Alors, inutile de faire long sur ce projet de film à sketch, Salaud de pauvre, qui convoque autant de réalisateurs pour autant de récits. On retrouve derrière la caméra eh bien, une douzaine de réalisateurs, dont Christophe Lévesque, Patrice Lecomte, Sophie Forte, la chanteuse Giedré et d'autres. Et devant la caméra, on a Ariel Dombal dans un rôle savoureux où, en bourgeoise plumée au jeu, elle demande de l'argent à un SDF. Alors, il y a aussi Zabou Bretman ou encore Philippe Chevalier de Chevalier et Las Palès. Alors, que mettent en scène ces 12 séquences? Plusieurs histoires, donc, dans lesquelles se retrouvent des pauvres et bien souvent leur relation avec les riches. Alors le souci, c'est que sort le même jour un film brillant sur le sujet, dont on a déjà parlé, le film du coréen Jeon Bong-ho. Mais indépendamment de cela, eh bien, c'est que de l'idée à sa traduction en image, eh bien, il y a un pas que certains ont mal franchi, si bien que sur la douzaine de courts-métrages, on va les appeler comme ça, il aurait mieux valu en garder 4 et les étirer plutôt que de nous proposer ce fourre-tout. La bonne idée et l'intervention entre chaque petit film de François Rollin qui les commente dans une salle de cinéma, en usant eh bien, de l'absurde dont il est coutumier. Mais ça ne suffit pas. Alors oui, une partie des bénéfices iront au Secours Populaire, c'est louable. Mais pour faire un don qui vaille la peine, eh bien, mieux valait-il passer un peu plus de temps à écrire et à trouver le casting. Voilà. Donc, Salaud de pauvre, c'est... vous irez si vous n'avez vraiment que cela à faire ou si vous voulez donner un peu d'argent au Secours Populaire.
C'est fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
C'est pas possible.
Ah, si, je vous assure.
Bon, vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez ma gueule !
La semaine prochaine, on aura vu quoi ?
Greta.
Oui.
Et moi, je vous parlerai d'un film qui s'appelle Un havre de paix.
Et moi, sans doute des particules.